L'idée est essentiellement de vous montrer, enfin de présenter un petit peu des éléments pour la discussion de tout à l'heure, et puis de resituer les archives de l'INHA au sein de l'INHA et par rapport, disons que, comme disait Ricardo tout à l'heure, nos trois institutions, l'archive de la critique d'art, Archive of American Art et INHA, ont des profils bien différents. Et les archives au sein de l'INHA ne sont qu'un élément des fonds patrimoniaux. Que la bibliothèque conserve. Alors, les quelques éléments historiques et de création. D'abord, la bibliothèque de l'INHA, donc, est récente. Le terme date de la création de l'INHA, c'est-à-dire en 2001. Les collections, elles, sont beaucoup plus anciennes et remontent au début du XXe siècle et ont été rassemblées sur une idée du couturier Jacques Doucet, donc, que vous connaissez tous sans doute très bien. Et je reprends. Alors, l'idée de Doucet, il y a quelque chose qui m'a plu particulièrement dans l'intervention de Lisa. C'était dans son W de Work of Art, où elle expliquait que les Archives of American Art ne conservent pas d'œuvres définitives, mais d'œuvres en train de se faire, des brouillons ou des préliminaires. L'idée de Doucet, au moment où il a créé la bibliothèque d'art et d'archéologie. Donc, c'était un important collectionneur. Il avait une importante collection d'art français du XVIIIe siècle qu'il a ensuite vendu quelques années plus tard. Mais c'était de documenter le processus créatif et l'œuvre d'art en train de se faire. Et donc, de rassembler de la documentation, à la fois livres anciens et pas tellement des archives. Le terme archive n'était pas utilisé au moment de la création de la BAA. On parlait plutôt de papier et puis surtout d'autographes. Alors les archives, qu'est-ce que c'est que les archives aujourd'hui? C'est des ensembles documentaires, donc papier personnel, correspondance, manuscrits d'ouvrages ou manuscrits d'articles d'historiens de l'art ou de critiques d'art, ou parfois d'artistes même, préparation de cours pour quand il s'agit d'historiens de l'art, d'archéologues, imprimés, documentation iconographique, aussi toujours importante, beaucoup de dessins, de photographies. Ces fonds d'archives, donc au moment de la création de la bibliothèque, ont été répartis et souvent démembrés entre plusieurs cotes, des cotes qui existaient à l'époque, la cote autographe par exemple, la cote manuscrit, la cote dessin, la cote imprimée. Il n'y avait pas de cote archive en tant que telle. La cote archive est une création récente, c'est l'initiative d'un de mes collègues actuels de la bibliothèque, Jérôme Delatour, qui est le conservateur chargé des photographies et qui au début des années 2000 s'occupait des fonds d'archives, qui a décidé de créer en tant que telle une cote archive. La volumétrie actuelle des fonds d'archives, donc on compte au jour d'aujourd'hui 146 fonds. Donc vous voyez qu'on est bien loin des 600. Alors je me souviens des plus de 600 Finding S, donc 600 inventaires pour les Archives of American Art. Donc nous n'avons que 146 fonds et tous ne sont pas dotés de Finding S, c'est-à-dire d'inventaire. Une grande hétérogénéité des fonds. On va d'un fonds d'archives qui peut se composer d'un seul carton d'archives à près de 400 cartons, les deux plus gros fonds. Le plus gros fond, c'est le fonds Maurice Bessé, un conservateur du musée et enseignant et très proche de Le Corbusier, qui comprend 390 cartons. Et le deuxième fonds en termes de volume, c'est l'historien d'art André Chastel, donc spécialiste de la Renaissance et un des initiateurs de l'Institut National d'Histoire de l'Art dans les années 80, qui comprend 360 cartons. Une grande hétérogénéité donc des volumes, hétérogénéité des contenus également, parmi les premiers fonds qui sont rentrés à la bibliothèque, souvent des fonds qui étaient composés de documentation de travail et souvent la documentation iconographique, c'est-à-dire des photographies qui étaient utilisées par les enseignants-chercheurs pour leurs cours à la Sorbonne par exemple, ou par les archéologues pour leurs cours. Certains fonds qui sont uniquement constitués de correspondances, et puis parfois des fonds très complets avec papier personnel. Donc là, c'est les fonds qui où on est toujours très, les fonds qu'il est particulièrement agréable de traiter parce qu'on a tout l'éventail d'une personnalité avec des papiers personnels qui peuvent parfois être des cartes d'identité, passeports, livrets militaires. Enfin, il y a beaucoup de vie en fait qui ressurgit. Donc correspondance, notes de travail et puis manuscrits d'œuvres éventuellement. Alors, les fonds d'archives que l'on conserve, ah oui, quelque chose d'important, je n'ai pas mis dans mon PowerPoint, là, à propos de la chronologie. Donc, je vous parlais tout à l'heure de la cote autographe, qui sont des lettres d'artistes ou lettres de collectionneurs qui ont été rassemblées par Doucet, donc dès la création de la BAA à partir de 1908. On compte environ 45 000, 47 000 lettres d'artistes. Ces lettres d'artistes, donc, qui sont de la correspondance isolée, c'est-à-dire des lettres achetées pièce à pièce en vente aux enchères, ou qui sont acquises par ensemble, parfois, soit en vente ou auprès de familles d'artistes, et qui vont être classés et indexés vraiment pièce à pièce dans notre base Agora. Et au niveau de la chronologie, donc on va du 16e au début du 20e siècle, avec un cœur historique de nos collections, et 90% de nos collections concernent la période fin 18e, 1914, et particulièrement fin du 19e jusqu'à 1914, voire 1940. C'est vraiment le cœur de nos collections. Pour les archives en tant que telles, les archives, c'est un petit peu la même chose que pour les autographes, c'est-à-dire la chronologie va de la fin du 19e siècle aux années 1930-1940. On va guère au-delà de 1940 pour les fonds d'archives, hormis pour les fonds d'archéologues et pour les fonds d'historiens d'art, où là on peut aller jusqu'à nos jours. Par exemple, le grand historien d'art Jacques Tuillier, décédé en 2011, a donné quelques temps avant sa mort ses archives à l'INHA. Donc on a des archives qui vont jusqu'aux années 2000, par exemple, au-delà des années 2000 même. Au niveau de la typologie des fonds, donc, on a une répartition entre artistes, architectes pour environ un tiers, historiens d'art, un tiers également, archéologues et critiques d'art, environ 12%, et puis quelques archives de marchands d'art et de collectionneurs. Ces archives de marchands d'art et de collectionneurs, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Depuis le lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, on a fait entrer des fonds de galeries. Je pense notamment à une galerie qui s'appelle Sago Le Garec, qui était spécialiste dans la diffusion d'estampes à la fin du 19e, début 20e. Et puis plus dernièrement, on a fait rentrer deux fonds de galeries d'art importants dont on a pas mal parlé, dont on a essayé de faire pas mal de promotion autour de ces deux fonds, qui étaient le fonds de la galerie, enfin des galeries Fabius. La galerie d'Eli Fabius, créée à la fin du 19e siècle et spécialisée sur les objets du Premier Empire et Second Empire. La galerie de ses enfants, qui s'appelait Fabius Frère, et qui a été reprise ensuite par son petit-fils François Fabius. Et puis l'autre fonds de marchands également important qu'on a fait rentrer dernièrement, c'est la famille Loeb, avec les deux frères Pierre Loeb, qui dirigeait la galerie Pierre, qui a été en activité entre 1924 et 1964, son frère Édouard Loeb, leur sœur Denise Collomb, la photographe Denise Collomb, et puis le fils de Pierre Loeb, Albert Loeb, qui a dirigé une galerie d'abord à New York et ensuite à Paris jusqu'au début des années 2000. La provenance des fonds, donc, c'est essentiellement, les archives entrent essentiellement via des dons ou des legs, et également par achat, donc par acquisition onéreuse, en vente publique ou auprès de particuliers. On est une des rares bibliothèques en France à bénéficier d'un mécénat important qui est un legs d'une ancienne conservatrice de la bibliothèque qui a travaillé très tôt, à partir de 1918, à la Bibliothèque d'Art et d'Archéologie, donc avant même au moment où elle a été donnée, en fait, par Jacques Doucet à l'Université de Paris. C'est le legs de Doucet à l'Université date de 1918. Et Clotilde Brière, donc, était l'épouse d'un conservateur de musée important, spécialiste de Versailles, conservateur à Versailles, Gaston Brière. Et Clotilde Brière a fait toute sa carrière à la Bibliothèque d'Art et d'Archéologie, où elle était notamment attachée aux collections de photographies. et elle a laissé à sa mort en 1970 des biens fonciers dont on perçoit les loyers et qui permettent dont les loyers sont consacrés exclusivement à l'accroissement des collections patrimoniales, donc des fonds patrimoniaux, c'est-à-dire archives, manuscrits, dessins, photographies, estampes et livres anciens. Donc, ce qui permet de vraiment d'avoir des accroissements courants et d'assurer une veille permanente auprès de marchands ou en vente aux enchères, qui permet d'être bien connu sur la place en termes d'acquisition. Et puis, le fait d'acheter aussi en vente vous amène des dons de particuliers ou des dons de marchands. Parfois, c'est le cas de la famille Fabius, par exemple, qui a à la fois vendu une partie de ses archives, les archives Arrault, qui étaient des marchands de couleurs, à l'INHA, et qui a donné ses propres archives, celles de la galerie Fabius, à l'INHA. Donc, acquisition onéreuse et acquisition par legs sont étroitement imbriquées. Alors, qui classe les fonds? Ça, c'est un élément vraiment important aussi auquel je tiens beaucoup. À la fois le personnel, évidemment, le personnel formé à l'archivistique et à la bibliothéconomie de la bibliothèque de l'INHA. Mais surtout, et c'est ça aussi qui nous distingue, je pense, les Archives of American Art. C'est-à-dire que l'INHA, c'est avant tout un centre de recherche qui fonctionne avec un département recherche de jeunes chercheurs, doctorants, post-doctorants ou conseillers scientifiques, maîtres de conférences. Et puis un département bibliothèque, avec une obligation pour les jeunes chercheurs qui sont sous contrat avec l'INHA de travailler sur les collections de l'INHA et de classer des fonds. Donc, je vous ai mis une liste de quelques fonds qui ont été classés par des chargés d'études, des doctorants de l'INHA. Ça a été le cas du fonds Fabius dont on parlait tout à l'heure, le fonds Van der Verlader, qui est un collectionneur de peinture hollandaise début XXe siècle, le fonds Louis Vossel, un critique d'art important qui est à l'origine du terme fauvisme et cubisme. Et puis également des programmes de recherche spécifiques en lien avec le département études et recherches de l'INHA. Ça a été le cas pour les archives Poinceau, qui ont été classées par 4 chargés d'études successivement. Les archives de l'archéologue Paul Deschamps, un archéologue spécialiste de la Syrie et des édifices croisés en Syrie, qui a été classé par un chargé d'études. Et puis les archives Duval, qui sont un archéologue spécialiste de l'Afrique du Nord, qui sont en train d'être classés par un autre chargé d'études en ce moment. Alors, on est bien loin des 600 finding heads des Archives of American Art. Sur 146 fonds d'archives que nous conservons, on a environ la moitié de ces fonds qui sont classés et qui sont communicables. Un principe de communicabilité important: tous les fonds classés sont communicables, tous les fonds qui sont non classés ou encore de classement ne sont pas encore communicables. En revanche, tous les fonds disposent, qu'ils soient classés ou non, disposent d'une description dans la base locale qui est la base Agora. Donc, que le fonds soit classé ou non, le fonds est au moins décrit avec une notice générale qui vous indique l'intitulé du fonds, évidemment, là, une partie analyse, c'est-à-dire le contenu des documents, les dates extrêmes et puis les termes d'indexation pour retrouver les différentes personnalités qui peuvent intervenir au sein du fonds. Alors, depuis 2 ans maintenant, la bibliothèque s'est équipée d'un portail documentaire. Je ne sais pas si... vous avez un onglet en haut à droite recherché qui vous permet de faire une recherche à la fois dans la partie catalogue imprimé de la bibliothèque et également dans les fonds d'archives décrits sur la base locale Agora. Alors, la base Agora est une base qui est utilisée à la fois pour décrire les fonds patrimoniaux de la bibliothèque de l'INHA, donc essentiellement archives et photographies, et puis qui est utilisée comme base de données pour les programmes de recherche du département études et recherches de l'INHA. Vous avez, via une interrogation par arborescence, qui est la partie que vous avez au milieu de l'écran, la possibilité donc de lister les différents fonds d'archives. Vous avez sur la partie droite tous les fonds d'archives qui sont listés, dont les notices dont je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire depuis les archives 001 jusqu'aux archives 146, parce que chaque fonds porte un numéro d'ordre qui n'a pas de valeur intellectuelle ou de valeur chronologique. Le fonds 001 n'est pas nécessairement le premier fonds qui est arrivé à l'INHA. Donc 146 notices pour les 146 fonds décrits. Et ensuite, ces notices se subdivisent elles-mêmes en... Bah, ça va être le finding aid dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire l'inventaire. Donc selon que le fonds est décrit ou non, les notices peuvent être se subdivisent et se développent. Donc là, par exemple, vous avez le premier fonds de la bibliothèque, le fonds Paul Deschamps, qui ont, contrairement à son numéro qui est le premier, son classement vient d'être achevé très récemment, au mois de septembre dernier, par un chargé d'études. Donc Paul Deschamps, je vous disais, c'est un archéologue spécialiste de la Syrie, notamment des édifices croisés dans la Syrie médiévale. Donc une notice générale de fonds et puis des subdivisions qui correspondent aux différentes séries archivistiques de classement. Donc par exemple, papier personnel, ses publications sur les châteaux croisés, d'autres travaux qu'il a pu faire, notamment articles, etc. Quelques notes de travail et la partie iconographie, avec aussi cartes et plans, et puis une autre série concernant l'art occidental, donc l'art, ces autres domaines de recherche en dehors de la Syrie médiévale. Un élément important qu'on retrouve dans les fonds d'archéologues, c'est l'imbrication, particulièrement dans les fonds d'archéologues, c'est l'imbrication des fonds les uns entre les autres. C'est-à-dire les archéologues travaillent souvent entre maîtres et élèves et se passent leur papier. Là, ça a été plus ou moins le cas, on va dire, grosso modo, de Paul Deschamps. Vous voyez, à la fin, vous avez un sous-fond, deux sous-fonds plus exactement, les papiers Ré et les papiers Guillemot, qui étaient deux archéologues qui avaient travaillé dans le même domaine que Paul Deschamps avant que celui-ci n'intervienne. Une possibilité aussi dans la base Agora de localiser des documents figurés. Alors avec une précision qui est moindre que dans une résolution qui est moindre que dans la bibliothèque numérique de l'INHA, mais qui permet pour certains programmes de recherche, et ça a été le cas notamment du programme Bourgoin, donc des archives Bourgoin, un dessinateur de la fin du 19e siècle, un dessinateur orientalisant, donc qui a fait l'objet d'un programme de recherche particulier avec à la fois un reclassement du fonds qui a été fait entre 2011 et 2012, une exposition et puis une numérisation de ces dessins, d'une grande partie de ces dessins, pas tous les dessins, mais d'une partie, donc qui ont ensuite été versés sur la base Agora. Alors actuellement, il y a un important effort d'unification et de modernisation des inventaires de recherche, c'est-à-dire que les instruments de travail ont pu, au moment des différentes entrées des archives depuis les années 1908, bah justement le fonds Bourgoin dont je parlais est un des premiers fonds qui est entré dans la collection Doucet, jusque après la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu une importante variété de typologies d'instruments de recherche, et du coup au jour d'aujourd'hui, on essaye d'homogénéiser les différents inventaires de recherche qui existent pour ensuite les verser sur la base Agora ou sur la base Calam de description des archives et des manuscrits de l'enseignement supérieur. Donc les prochaines étapes, c'est précisément le versement de certaines notices Agora concernant les archives et les photographies sur la base Calam, qui est une base nationale. Agora est la base locale développée par l'INHA. Calam est le catalogue collectif de l'enseignement supérieur, donc des bibliothèques qui relèvent du ministère de l'enseignement supérieur, donc consacré aux archives et aux manuscrits. C'est le jumeau, si vous voulez, du catalogue Sudoc qui décrit les imprimés. Une partie aussi pour terminer mon intervention sur les questions de valorisation. Donc je disais tout à l'heure que certains fonds d'archives avaient fait l'objet de programmes spécifiques, c'était le cas de Jules Bourgoin, c'est le cas des archives Poinceau également, une grande famille d'archéologues fin 19e début 20e qui se sont succédés comme responsables des antiquités d'Afrique du Nord et plus particulièrement de Tunisie. Donc avec des expositions qui sont organisées à l'INHA, à la fois par exemple à partir des archives Roger Marx, la famille de critiques d'art, donc Jules Bourgoin, archives d'artistes et André Chastel. Et puis quelque chose dont on pourra peut-être aborder dans la discussion qu'on aura tout à l'heure, c'est-à-dire comment exposer les archives. Là, je vous ai mis une photographie de l'exposition des archives Chastel qui nous avait posé beaucoup de problèmes, c'est-à-dire comment exposer par exemple des lettres ou des correspondances qui sont pas un matériel par rapport à des tableaux vous avez au fond de la petite icône, mais qui sont pas un matériel qui s'expose facilement. Et puis aussi un dernier élément qu'on pourra reprendre au moment de la discussion, c'est-à-dire l'utilisation qui est faite de ces archives. Là, il y a une partie de valorisation et d'exposition de journées d'études organisées autour de certains fonds, mais on pourra rediscuter aussi de la manière dont sont consultées ces archives. Juste un petit exemple, les archives Chastel dont vous avez le petit catalogue d'exposition. D'ailleurs, vous avez des catalogues aussi. On avait tiré ça. 500 exemplaires, donc il nous en reste beaucoup. N'hésitez pas à prendre quelques catalogues. Mais pour vous donner une idée, au moment où les archives Chastel sont arrivées à l'INHA dans les années 90, on n'insistait pas tellement sur la partie archives que sur la partie bibliothèque. Quand l'INHA, la mission de préfiguration de l'INHA, donc, qui était dirigée à l'époque par Michel Laclotte, a souhaité acquérir la bibliothèque d'André Chastel, on parlait essentiellement des livres d'André Chastel. C'était un noyau d'imprimés pour alimenter la future bibliothèque d'histoire de l'art. Et la partie archive n'était pas la partie la plus importante. Dans la transaction qui s'est faite avec la famille, on parlait vraiment de la bibliothèque. Et au jour d'aujourd'hui, enfin 20 ans après, si vous voulez, parce que cette transaction s'est faite en 1995, 20 ans après, ce qui intéresse aujourd'hui les chercheurs, c'est pas tellement les ouvrages dont finalement on a des doubles ou des triples à la bibliothèque de l'INHA, les imprimés, mais beaucoup plus la partie archive de Chastel, c'est-à-dire comment il travaillait, quelles étaient ses relations avec d'autres historiens d'art étrangers, comment il s'est formé, comment il a formé lui-même d'autres historiens d'art, etc.